parle toujours donc de ce recueil de nouvelles qui s'appelle La part sauvage d'Erwan Desplanques, qui est paru aux éditions de l'Olivier. Alors, on ne va pas en dévoiler plus, mais si vous voulez bien, on va parler de la dernière, qui s'appelle Julia, et qui est un petit peu différente des autres. Oui. Enfin, moi, je l'ai perçue comme étant différente des autres.
Bah, alors, vous me direz pourquoi. Elle est sans doute un peu plus mélancolique ou crépusculaire, et c'est un face-à-face entre un narrateur qui est un peu désœuvré dans une petite ville d'Île-de-France, très proche de la forêt, et une ex-gloire du cinéma italien qui coule des jours à peu près paisible de retraité du cinéma, à peu près à l'abri des regards, et une amitié se noue, un lien se noue entre cet homme qui discute, qui converse, qui parle de cinéma avec cette femme, qui lui raconte ses souvenirs. J'en dis pas beaucoup plus, sinon que voilà, le nœud entre les deux, on comprend que cette vieille gloire n'a pas forcément beaucoup d'années à vivre devant elle, et que lui se retrouve un peu le porteur ou le garant de cette mémoire de manière totalement, parfaitement accidentelle, qui est liée simplement à la proximité géographique, à leur rencontre inopinée sur une place du village, et quelque chose se noue. Alors, je dois dire qu'en plus, c'est une nouvelle que je dédie à un de mes amis qui est en train de vivre une situation assez proche avec une très grande comédienne dont je ne peux pas dire le nom. Voilà.
Alors, moi, je l'ai perçue différente des autres parce que le narrateur n'est pas le personnage principal.
C'est vrai. C'est vrai, il est un peu absent, il est un peu en retrait, ouais. Il est un peu à l'écoute. Il est le réceptacle du témoignage et de la vie d'une autre. Et il est peut-être un peu plus passif que dans les autres nouvelles où le narrateur prend une décision et une impulsion. Et là, il est plutôt l'oreille, le confident. Simplement dans il est actif dans son écoute et il est dans le perpétuel questionnement de comment écouter, comment accepter un témoignage, comment participer à un échange à un moment où la personne commence à divaguer un petit peu, quelle est sa place, quel est son rôle. De témoins, sur le plan cognitif, est-ce qu'il est là pour la stimuler, est-ce qu'il est là comme médecin, comme aide-soignant, comme témoin au contraire archi gâté d'une grande mémoire du cinéma. Donc il doit quand même trouver sa place. Il y a quand même la question de être à sa place et du rôle qu'on doit jouer. Donc il est à la fois passif, mais dans l'écoute active qui est la sienne et dans le rôle qu'il joue finalement, et voilà, c'est pas si éloigné de d'autres personnages.
Et la nouvelle et le livre se termineront sur un rire.
Oui, bah c'est et un rire teinté de mélancolie avec un peu de gris, un peu de noir derrière. Et ça me plaît. C'est aussi le rire qui est le rire de qui nargue les événements, qui nargue la mort, la peur de l'avenir, la peur de mourir, un rire contre l'anxiété, un rire vital, un rire mélancolique, un rire poli. Et moi, j'essaie moi-même, en écrivant, d'avoir toujours, c'est-à-dire le sourire aux lèvres, mais de mon livre précédent était très autobiographique, était un livre de deuil qui parlait beaucoup de la mort de mon père, et j'essayais toujours de montrer que ces moments, dans les moments les plus tragiques, les plus durs, il y avait toujours le surgissement de perturbations comiques qui étaient la revanche ironique de la vie, même de la vie pure, parfois de la joie pure. Et ça m'intéresse dans les auteurs que j'aime le plus, il y a toujours cette ambivalence, cette alternance, le rire qui vient se glisser au milieu des larmes, etc. Ça fait cliché de le dire, mais il faut, j'essaie, j'y pense en permanence. Justement, pour éviter le pathétique, on parlait des décors tout à l'heure, j'essaie d'éviter le pittoresque, le décor qui n'est là que pour lui-même et qui n'est pas là comme support comme comme enveloppe d'une intrigue, d'un drame intime et puis intérieur. Et puis même chose sur le rire. J'essaie d'éviter la pochade ou l'excès de bouffonnerie, mais d'avoir quand même des petites une sorte de frémissement, de surgissement burlesque un peu partout, mais voilà, de manière bien dosée. Et parfois, dans une nouvelle, ça se joue à un mot, à une ligne, à une réplique, où c'est trop comique, donc ça devient un peu potache, ou à l'inverse, c'est un peu sombre, il faut remettre un élément. Parfois, c'est simplement un élément trivial qui vient, hop, désamorcer une pompe ou quelque chose d'un peu trop facilement tragique.
Mais en tout cas, c'est ce qui nous a plu dans ces textes. Merci beaucoup, Erwan Desplanques. Ça s'appelle La part sauvage. C'est paru aux éditions de l'Olivier. Et puis j'espère un prochain livre.
Merci
Merci.
beaucoup et j'espère aussi. J'y travaille.
À suivre.
À suivre, oui.
Radio Libertaire.
C'est la fin de ce numéro d'Idéo et Débat. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire. C'était Olivier Rollin, Jusqu'à ce que mort s'en suive, paru chez Gallimard, et Erwan Desplanques, La part sauvage, paru aux éditions de l'Olivier. Des tas de choses passionnantes à se mettre sous les yeux. Bien sûr, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz et portez-vous bien.
Radio Libertaire.
Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats. Livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence, avec au programme deux ouvrages différents mais aussi intéressants l'un que l'autre. Le premier s'intitule « Jusqu'à ce que mort s'en suive », il est paru chez Gallimard et son auteur c'est Olivier Rollin. Où il y sera question des journées de juin 1848 et au-delà. Et le second est un recueil de nouvelles qui est paru aux éditions de l'Olivier. Ce recueil de nouvelles a été écrit par Erwan Desplanques et s'intitule « La part sauvage » ou « Comment des vies ordinaires peuvent être amenées parfois à basculer ». En tout cas, des textes vraiment très sensibles et très fins. Voilà pour le programme du jour. On retrouve tout de suite donc Olivier Rollin, « Jusqu'à ce que mort s'en suive » paru aux éditions Gallimard. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de retrouver Olivier Rollin pour son dernier roman qui est paru aux éditions Gallimard et qui s'intitule « Jusqu'à ce que mort s'en suive ». Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. On en a discuté avec Gérard Guégan qui l'a déjà chroniqué et on était tout à fait d'accord par rapport à la passion que nous suscite ce livre parce que c'est un livre absolument, effectivement, absolument passionnant. Pour plein de points. D'abord, par son sujet, l'histoire de ces deux personnages qu'on découvre grâce à Victor Hugo. Et il faut partir de là, effectivement, dans Les Misérables. Victor Hugo évoque deux manifestations d'insurrection de 48, deux barricades qui sont tenues chacune par un des protagonistes qu'on va retrouver dans « Jusqu'à ce que mort s'en suive ». Alors, déjà, on va parler de Victor Hugo et de ce passage des Misérables qui est un petit peu particulier quand même.
Oui, parce que c'est le premier chapitre de la cinquième partie, enfin peu importe, mais c'est le moment précis où Hugo recommence à écrire « Les Misérables ».
Après
avoir laissé tomber pendant 13 ans. Le livre s'appelait Les Misères jusqu'en 48. En 48, il le laisse tomber et il fait des tas de choses, comme on sait, entre temps. Et il ne recommence à l'écrire que quand il est en exil à Guernesey pendant l'hiver 61-62, si je ne me trompe pas. Bon, donc c'est le moment précis où il recommence à écrire. Et c'est une digression sur ces deux barricades formidables des journées de juin 48. Ça n'a rien à faire dans l'histoire du Misérable. Enfin, lui-même
le
dit.
C'est même pas la même époque.
Voilà. Donc, c'est la même époque, mais c'est pas du tout les mêmes années, etc. Ouais. Bon. Donc, qu'est-ce que ça fait là? Et je pense que ce que ça fait là, c'est que en 48, enfin, pendant les journées de juin 48, Hugo était encore le grand, enfin il était encore en France, il était le grand personnage, il était voilà le pair de France, l'ami du roi Louis-Philippe. Enfin, Louis-Philippe vient d'être chassé, mais quand même bon. Et il est du côté du parti de l'ordre, enfin il est du côté de ceux qui assaillent les barricades. Bon, alors il n'est pas, il ne donne pas l'assaut avec un coup de fusil, etc. Il est au contraire de ceux qui essaient de faire que la répression ne soit pas trop féroce. Il va même jusqu'à cacher des insurgés qui ont échappé aux exécutions, etc. Mais enfin, il est quand même du côté de Cavaignac, etc. Bon. Et quand il recommence à écrire Les Misérables, donc 13 ans plus tard, évidemment, il a complètement changé. Il est devenu le grand insurgé, d'une certaine façon.
L'exilé,
le grand républicain, le grand opposant à Napoléon III, etc. Et par conséquent, il s'interroge, sans le dire explicitement, il s'interroge sur son rôle pendant ces journées-là. Bon. Donc, ce qui donne des considérations extrêmement embrouillées et assez... Oui, en berlificoté, c'est des contorsions. Quoi. En fait, il dit, voilà, c'est difficile, cette insurrection, c'était quelque chose d'indéfinissable, c'était une insurrection du peuple contre lui-même, par amour du peuple, il fallait le réprimer. Bon, c'est, tout ça est un peu, moins qu'en puissance, c'est que c'est un peu tordu. Quoi. Donc on sent qu'il est embêté par cette histoire et qu'il essaie de montrer qu'il n'a pas été du si mauvais côté. Voilà. Bon. Mais toujours est-il, ça, c'est son... Je pense que c'est ce qui se passe dans sa tête, mais c'est l'occasion pour lui donc de mettre en scène très brièvement ces deux personnages qui vont devenir les personnages de mon livre, plus modestes que Les Misérables.
Oui, oui, oui. Alors on va parler de ces deux personnages dans quelques instants, mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir justement, et on le sent très très bien dans Jusqu'à ce que mort s'en suive, Olivier Rollin, donc ce livre paru chez Gallimard, on sent très bien. Vous explorez la question des rapports entre l'histoire et la fiction. Et ça, ça m'a intéressée, parce que vous cherchez ces deux personnages, qui sont les deux fils rouges du livre, au travers de tous les écrits qui ont pu être faits sur eux. Et on voit justement comment l'histoire, comment le fait brut, est déformé, ou parfois on ignore totalement ce qui s'est passé, mais on a un récit autour des événements. Et c'est intéressant de voir comment fiction et histoire brute s'entremêlent.
Oui, particulièrement dans le cas de Hugo, qui est un grand fictionnel.
Bon. Oui, d'imagination.
Non, mais c'est drôle, parce qu'en revanche, il y a par exemple ce livre dont je parle, que je cite souvent dans mon propre bouquin, ce livre de Hugo qui s'appelle « Histoire d'un crime », et qui est la relation, mais vraiment, journalistique, dans le sens le plus noble du terme, le plus élevé du terme, quoi. Journalistique et en même temps engagé, puisqu'il était bon, de la résistance au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Bon, donc 2 décembre 1851. Bon, 2, 3, 4 décembre. Bon. Et là, il est extrêmement précis, extraordinairement précis, extraordinairement factuel, etc. En revanche, quand il parle de cet autre événement des journées de juin, donc dans Les Misérables, oui, là, en effet, il bidonne pas. Encore une fois, du point de vue de l'analyse politique, il bidonne, à mon avis, mais je dis tout ça avec la plus grande admiration qu'on doit avoir pour Hugo. Hein. Bon, mais même du point de vue factuel, il arrange un peu les choses, parce que Hugo aime bien les grandes oppositions, les grandes... Donc ces deux personnages-là, Barthélemy et Cournet, qui sont en vérité des personnages assez opposés, puisqu'ils vont finir par se battre en duel et l'un va tuer l'autre. Bon. Mais quand même, il en remet, y compris sur leur apparence physique. L'un est une espèce de géant tonitruant, l'autre est un gamin chétif, comme il dit. Enfin, bon, voilà, il lui faut... Bon. Le lieu de la barricade de Barthélemy n'est absolument pas exact, ni même la description de la barricade. Bon, bon voilà. Et donc il raconte des faits réels, mais en les embellissant ou en les déformant pour satisfaire, enfin pour que ça corresponde à sa vision de l'histoire, quoi. Et en l'occurrence, sa vision de l'histoire, c'est qu'il y a, c'est la même que dans 93, c'est qu'il y a une révolution généreuse et une révolution dogmatique et froide, quoi.
Oui, là, Ça on va en parler, oui. Parce qu'effectivement, c'est dans tout le livre Olivier Rollin. Mais pour revenir à ce texte d'Hugo, avec ces deux barricades qu'il décrit, c'est du Hugo aussi, parce que le papillon blanc qui vole, oui, est terminé sur l'été n'abdique pas. C'est
oui,
trop beau.
Ça, c'est trop beau, oui. Alors, c'est absolument. Alors, ça, je suis sûr, en effet, le papillon, Hugo, il peut tout inventer, bien sûr. Mais je suis sûr qu'il ne l'a pas inventé. Et d'autant plus qu'il y a quand même ce détail parfaitement émouvant, quoi, c'est que c'est la seule fois, il dit, je me souviens d'un papillon blanc qui voltait au travers de la rue, etc. Bon, et c'est la seule fois où il dit je, où il parle de lui-même en disant je. Dans le reste des Misérables, quand il parle, il lui arrive de prendre la parole, mais il dit l'auteur de ses pages ou l'auteur de ses lignes, etc. L'auteur de ses pages est absent de Paris depuis bien longtemps, etc. Et là, il dit je. Bon, voilà, c'est la seule occurrence d'un je qui est lui-même. Donc c'est vraiment une chose vue, ce papillon, et c'est magnifique.
C'est très très beau.
Je suis la rose plébéienne, regarde.
un autre jeu qui va intervenir, c'est Olivier Rollin, qui va retourner sur les lieux des barricades, qui va explorer le Paris de maintenant pour essayer de voir effectivement ce qu'il en est de la description de Hugo, mais pas que.
Oui, c'est vrai qu'une chose qui me touche particulièrement, c'est de voir dans la ville, dans les villes, dans la mienne par exemple, dans Paris, dans la ville contemporaine, ce qui subsiste la marque de ce qui a disparu, voilà. Et donc, des barricades, il reste rien. Mais il reste les maisons qui ont, par exemple, les deux immeubles en bas de la rue du Faubourg du Temple, qui ont d'ailleurs été de nouveau ensanglantés par les attentats djihadistes, le Bataclan, le jour du Bataclan. Bon, bref, ces deux immeubles-là sont les mêmes. On les reconnaît sur des gravures de l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de gravures faites de cette insurrection. Bon, donc c'est les mêmes, et en même temps c'est pas les mêmes, puisqu'il y a un McDo en bas. Bon, et voilà, le lieu de la barricade, le lieu réel de la barricade de Barthélemy, ça a complètement changé. Bon, mais tout de même, on peut le reconnaître. Il y a des cartes de l'époque, et puis il y a le canal qui passe à côté, et puis il y a le souvenir du gibet de Montfaucon qui était juste à cet endroit-là. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, trouver se promener dans la ville en essayant de voir les infimes, les traces infimes, où quelquefois il n'y en a aucune, mais on n'en a que par la littérature, quoi, de ce qui a été là, de ce qui a été et ce qui n'est plus.
Oui, c'est d'autant plus important, et moi j'ai bien aimé ce jeu de miroir, Olivier Rollin, dans « Jusqu'à ce que mort s'en suive », parce que, en plus, c'est le Paris d'avant Haussmann que vous convoquez, et ce Paris-là, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas bien quand on évoque, quand vous évoquez les buts de Chaumont, par exemple, quand vous évoquez ce Paris-là, c'est un Paris qui a totalement disparu. Haussmann a tout rasé et vous redonnez vie à ce qui existait à l'époque.
Oui, oui, les buts de Chaumont, par exemple, c'était absolument stupéfiant. Les buts de Chaumont, c'était complètement pelé. Il y avait des carrières de gypse. Bon, qu'on faisait ensuite cuire quoi, dans des fours. Il en subsiste, par exemple, il en subsiste dans l'onomastique, la rue des chauffourniers. C'était la rue des gens qui faisaient du plâtre en faisant cuire le gypse. Bon, et donc il y avait cette butte pelée comme ça, et en dessous il y avait donc ce qu'on appelait la grande voirie de Montfaucon, qui est donc à l'emplacement actuel de la rue de Meaux, quoi. Et qui était l'endroit où on déversait venaient des tombereaux qui déversaient toutes les fosses d'aisance de Paris.
De Paris.
Voilà. Donc vous imaginez la puanteur extraordinaire. Bon, il y a des auteurs, enfin des espèces de journalistes, etc., à l'époque, qui ont décrit ça. Bon. Et puis, au milieu de tout ça, il y avait l'endroit également où on tuait et où on dépeçait, etc., tous les chevaux de Paris. Bon. Et donc, des chevaux, à l'époque, des chevaux, il y avait centaines de milliers dans Paris. Bon, voilà. Donc c'était un endroit qui était dévolu entièrement à la merde, bon,
à la
pourriture, aux entrailles, aux viscères, au sang, etc. C'était un endroit absolument, c'est une espèce de représentation de l'enfer, quoi, sur Terre, quoi, avec au-dessus cette butte qui ressemblait au Golgotha, quoi, si on en croit les peintures.
Oui, tout ça, on découvre dans « Jusqu'à ce que mort s'en suive ». Il y aura l'équivalent avec Londres après, mais on en parlera un peu plus tard. Mais dans ce Paris, il y a donc les deux personnages évoqués par Victor Hugo, les Barthélemy et Cournet. Deux univers complètement différents. Mais en même temps, ce qui m'a intéressé à vous lire, Olivier Rollin, c'est qu'ils ne sont pas monolithiques et qu'on va les voir évoluer, et notre point de vue aussi, notre perspective va évoluer par rapport au personnage. C'est-à-dire qu'on va les trouver sympathiques ou pas, rebutants ou pas, et ça va changer au fur et à mesure du passage du temps. Alors on va commencer par parler de Barthélemy, parce que c'est le premier qu'on croise.
Oui, c'est important.
Oui. Je sais pas, mais enfin bon, en tout cas, c'est la figure du militant.
Oui.
Alors, on va dire ça pour résumer de manière un peu caricaturale, mais c'est le type. Et alors, c'est intéressant parce qu'on voit, ne serait-ce que par rapport à sa description physique, on en aura plusieurs au fur et à mesure du livre, fait par différents protagonistes, et on se dit, bah, tout ça pour un seul homme.
Oui, oui. Mais par exemple, Hugo ne l'aime pas, évidemment. Parce que donc, Barthélemy, c'est en effet, d'abord, c'est un prolétaire, bon. Et c'est un blanquiste, donc blanquiste.
Pur et dur.
Blanquiste, une espèce de pré-Lénine, enfin, c'est théoricien et praticien surtout de l'insurrection, etc. Et puis, en fait, des sociétés secrètes, des sociétés révolutionnaires très disciplinées, etc. Bon, bien. Et donc, Hugo, pour toutes ces raisons-là, l'aime pas. Et il le décrit donc comme un gamin sinistre, un gamin tragique. Bon, enfin, c'est assez beau de dire comme formulation, gamin tragique, parce que c'est un peu le contraire de Gavroche, quoi. Bon, même s'il joue pas du tout le même rôle que Gavroche, et qu'en plus, lui, il a vraiment existé. Bon, mais en tout cas, il n'était pas du tout, en vérité, il n'était pas. Quand on consulte, enfin, ce que j'ai fait, bien sûr, tous les journaux de l'époque, parce que ce type, il passe combien, 4 fois dans sa vie devant les tribunaux.
Devant les juges.
Et la dernière fois, ça
se termine
pas
bien.
Bon, en tout cas, il n'était pas du tout chétif comme le décrit Victor Hugo. Il n'était pas du tout cette espèce d'ombre sinistre que Hugo décrit. C'était un type plutôt costaud, au contraire. Bon, et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est assez. Ben, quand on écrit, enfin, surtout quand on prépare le travail, quand on se documente, etc., c'est assez fascinant de. Voilà, c'est un travail d'enquête, quoi, d'enquêteur. Quoi, et c'est assez fascinant de voir progressivement se dégager de la fiction, de l'être de fiction, un être réel, avec les cheveux très noirs, avec voilà, des marques de petites véroles, avec sa taille qui est 1m70, c'est-à-dire il n'était pas si petit que ça, c'est la taille de Hugo en l'occurrence, bon, et, enfin c'est la taille moyenne, je pense, d'un Français de l'époque, bon, enfin bref, de le voir, même physiquement, devenir un être réel, quoi, c'est enfin, aussi réel que peut l'être un être du passé, voilà, c'est assez fascinant. Et puis alors d'autre part, en effet, voilà, il y a des moments où on déteste, il y a des moments où on l'admire, il y a des moments où on l'aime même. Bon,
ouais, voilà, oui, il est fascinant.
Il est fascinant, il est très intelligent, il est d'un courage indomptable, il est d'une énergie absolument implacable, quoi. Ouais. Alors ce qui donne quelquefois un personnage qui pourrait devenir dans la révolution russe, qui pourrait devenir un agent du NKVD, un type, un policier politique terrible, quoi. Bon, parce qu'en plus c'est un paranoïaque, évidemment. Enfin, il a quelques raisons de l'être, mais bon. Donc à certains moments il est d'un sectarisme et d'une
insupportable,
et puis à d'autres moments, et spécialement quand il est devant ses juges par exemple, il est d'une dignité, d'un courage formidable, il ne leur cède absolument rien, il leur répond à la fois avec une audace complète et en même temps une espèce de correction glacée qui les méduse, les juges, parce que ça, donc il est un personnage. Enfin, il y a un moment, il y a un type, quand il est à Londres, il y a un Allemand exilé aussi, qui dit de lui, qui est plutôt terrifié par lui, mais qui dit, c'est ce genre de personnage qui peut faire aussi bien un bourreau implacable qu'un héros dans des barricades, enfin sur une lutte révolutionnaire. Il est tout ça. Il est entre le héros et le bourreau. Voilà.
Oui.
Mais toute l'histoire des révolutions, à vrai dire,
c'est
nous
ça.
A montré que c'est une, enfin que c'est pas si rare que ça, quoi, cette oscillation.
Toute la terre, chaque prolétaire a frémi d'un immense espoir. Ce d'Oviedo d'un splendide élan ont rejeté soudain leur carcan, ont pris le pouvoir. Ce d'Oviedo, la victoire entière par toute la terre ne viendra qu'après mains efforts. Ce d'Oviedo ont lancé l'action, l'Espagne a touché du doigt l'essor des révolutions. à Oviedo. C'est d'Urga tranquille, de la mine hostile, armée d'explosifs de chantier. Sous leur barrette en bourgeron noir, on prit d'assaut palais et manoir, héros ouvriers, ceux d'Oviedo. À leur cigarette, allumant la mèche de leur grenade de fer blanc, pendant des jours, ils ont repoussé les mercenaires contre eux, lancés par les possédants, ceux d'Oviedo. C'est sans sou ni maille, en pleine bataille, ont protégé les gens, les biens. Parmi l'horreur de la lutte à mort, il préparait un plus juste sort, les droits et le pain, ceux d'Oviedo. Tremblante de haine, lâche et inhumaine, la réaction les écrasa. Toute une armée à coups de canon fit d'Oviedo un tombeau sans nom. Partout on trembla pour Oviedo. L'âpre bourgeoisie, malgré ses tueries, n'aura nul repos désormais. L'Espagne entière a frémi d'horreur. Le jour approche où par sa fureur seront bien vengés.
C'est la question du choix, justement, quand on commence à avoir un idéal révolutionnaire, c'est jusqu'où va-t-on et comment on aborde la révolution, oui, et puis, comment on aborde l'engagement.
Oui, et puis jusqu'où va-t-on, et puis est-ce qu'un idéal révolutionnaire oblige à penser qu'on est le seul ou les seuls à détenir l'absolue vérité, Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité, je dis pas, éventuellement même chez les opposants, mais en tout cas chez les autres qui ne sont pas exactement de la même chapelle que nous. Je dois dire, bon, puisque ce n'est pas un secret, que j'ai été militant gauchiste très radical il y a quand même assez longtemps, je dois dire que ça me rappelle des choses, évidemment, les oppositions féroces qu'il y avait entre différents groupes, qui aurait dû être qui étaient d'ailleurs à peu près du même côté, mais qui ne s'en détestaient pas moins.
C'est le propre de ce type de mouvement, avec les scissions qui s'ensuivent, oui, et les querelles.
Voilà, qui est accentué par le fait que c'est surtout à Londres que ça se manifeste, parce que dans le milieu de l'exil. Bon, donc, sur les tout petits, enfin, ils sont quelques centaines, ils sont coupés de tout, ils sont coupés complètement de la vie anglaise, et ils sont à peu près complètement coupés de la vie française. Bon. Et donc, évidemment, à l'intérieur de ce vase clos, ça mijote affreusement.
Quoi. Oui, il ira quand même jusqu'à penser que Marx est un pacifiste, donc
oui,
il va se brouiller avec lui.
Et même à envisager, semble-t-il, de l'assassiner.
Ouais, donc, mais ça, c'est pour la partie Londres, parce que ce qui m'a intéressé chez ce personnage, c'est que jamais il ne renonce, mais que ce n'est pas un théoricien, c'est un homme d'action. Mmh. Il a quand même été condamné deux fois au bagne à vie, il est allé au bagne. Il a bénéficié d'une grâce qui lui a permis de revenir.
Il a bénéficié d'une grâce. Il a surtout, enfin, parce qu'il y a eu la révolution de 1948, oui, et donc il a été considéré à juste titre d'ailleurs comme un prisonnier politique et en effet libéré.
Et après, bon, il s'est échappé, enfin, plein de choses. C'est un homme de terrain.
Oui, non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire en plus, c'est qu'il fait quand même donc 8 ans de bagne, si je ne m'abuse. Il est mis au bagne, il a 17 ans. Bon. délibéré du bagne donc par 40 par la révolution de 48, la révolution de février 48. Bon, eh bien, on pourrait considérer qu'il pourrait se dire bon, mais ça va, j'ai.
En juin, mars, avril, mai, juin,
six mois après. Il est de nouveau sur les barricades et il est de nouveau condamné au bagne à perpétuité. Bon, je veux dire, c'est un type qui
ah
a,
oui,
il en a vraiment.
Ouais, et en plus, quand il est fascinant quand il est sur cette barricade parce qu'il est décrit comme quelqu'un qui respecte les opposants, oui. Qui ne tue pas brutalement, enfin qui n'est pas un monstre.
Oui,
enfin,
oui, ça me rappelle.
Très, très noble.
Non, non, au contraire, il a un comportement extrêmement noble. En effet, il tient à payer parce qu'il faut qu'il ravitaille les gens de la barricade en pain, en vin, etc.
Il paye les commerçants.
Et il paye les commerçants, ou il essaie de les payer, en tout cas. Enfin, il les paye tant qu'il a de l'argent, et puis sinon, il leur fait des bons pour qui sera payé par la République démocratique et sociale. Ça leur a pas fait beaucoup d'argent, mais bon. Mais ça me fait penser, je me souvenais, il y a une chanson sur les insurgés, ça n'a rien à la fin, c'est un autre temps, quoi, les insurgés espagnols d'Oviedo. Je me souviens de cette chanson qui est assez belle et qui dit, il y a des paroles qui disent « C'est sans sou ni maille, en pleine bataille, ont respecté les gens, les biens. » Bon, et là, c'est comme ça. Il tient à ce qu'il y ait une espèce de morale révolutionnaire.
Oui,
quoi,
oui, c'est ça, il y a une éthique, oui. Tout à fait. Et donc, dans ces moments-là, il est fascinant. Oui. Et quand il est jugé, effectivement, il est fascinant aussi. Et ça fait, j'allais dire, contrepoids par rapport à Cournet, qui, lui, a des débuts complètement différents. Vous évoquez Olivier Rollin dans « Jusqu'à ce que mort s'en suive » ce personnage en disant « Lui, c'est la figure de l'aventurier. »
Oui. Oui, c'est ça, oui. Je reprends cette opposition, enfin, qui est
classique,
mais je me suis ressouvenu à ce moment-là du bouquin de Roger Stéphane qui s'appelle Portrait de l'aventurier et de la préface que Sartre avait faite et où Sartre, donc, il distingue, dit, voilà, il y a deux types dans deux grands types comme ça dans les grands mouvements révolutionnaires, le militant. Le militant, je trouve que c'est pas un très bon mot d'ailleurs, c'est parce que, mais enfin, en tout cas, c'est celui qui est... le radical, mais aussi celui que la nécessité sociale pousse à être un révolutionnaire.
Ah, ils ne sont pas des mêmes milieux. Hein.
Voilà. Et puis, il y en a d'autres. Et c'est évidemment, c'est des convictions progressistes, quand même. Bon, mais c'est aussi le goût de l'aventure, le goût de la fraternité, le goût de, voilà, du danger encouru, etc. Et Cournet, donc, qui est un ex-officier de marine, un officier de marine extrêmement indiscipliné.
Qui n'embarque pas.
Voilà, qui fait le malheur de ses... La fureur de ses supérieurs, qui se fait porter pâle au moment d'embarquer, qui vit selon un amiral, là, qui est son supérieur, qui fait la grande vie avec des filles dans une maison qu'il a louée à terre, etc.
Qui
est criblé de dettes et tout ça. Enfin bon, bref. Donc
qui se fait remplacer par son frère.
Oui, ça c'est extraordinaire.
C'est
oui. Il est nommé commissaire adjoint de la République, c'est-à-dire sous-préfet, quoi, grosso modo, par la Révolution de 48. Et il se fait remplacer par son frère, lequel se fait encore remplacer par son frère.
Le sens de la famille.
Voilà. Donc c'est un personnage, c'est un peu un Jean Foutre, mais plutôt
sympathique.
Plutôt sympathique, oui. Voilà, mais c'est pas du tout le même genre de figure, quoi.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment leurs destins se croisent. Donc, parce qu'ils sont tous les deux sur les barricades en 48, pas du même côté.
Ah si, en 48.
Enfin, oui. Et après...
Pas sur la même barricade.
Pas sur la même barricade. Il y en a un qui est blanquiste, on l'a évoqué. L'autre, c'est le Dru Rollin.
Oui.
Donc, ils ne sont pas faits pour s'aimer.
Non, ils ne sont pas faits pour s'aimer. Mais il se trouve que quand même, dans les journées de juin, ils sont du même côté. Mais en effet, le Dru Rollin, bon, c'est un genre de Robespierre en carton-pâte, quoi. Et ça, c'est un républicain bourgeois, quoi. Voilà. Bon. Et tandis que l'autre, en effet, c'est un blanquiste, c'est-à-dire un révolutionnaire professionnel et jusqu'au bout et radical, quoi. Bon, donc ils sont, enfin, leur tempérament les oppose absolument, mais leur classe sociale, il faut le dire, les oppose aussi. Et leur attachement politique les oppose. Bon, cependant, toute cette opposition ne devrait pas aller jusqu'à un duel mortel. Mais bon.
Alors, on laissera nos auditeurs découvrir dans le livre le parcours de ces deux personnages dans Jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais il faut évoquer le fait qu'effectivement, ils vont se retrouver au cours d'un duel où l'un d'entre eux périra. Et en plus, ce sera le dernier duel qui aura lieu
en Angleterre.
C'est totalement romanesque.
Oui, totalement, oui. Et pour les Anglais, c'est une chose absolue. Les Anglais déjà considèrent tous les exilés qui affluent à Londres comme des individus extravagants. Spécialement les exilés français, spécialement les exilés blanquistes, etc. Mais alors en plus qui se permettent de se battre en duel sur des pelouses près du château de Windsor, c'est
impensable.
Absolument impensable, oui.
Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grande la terre, et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons.
Cette ville de Londres très noire, qui est la première ville d'Europe.
Du monde.
Oui. Qui est très sombre, qui est très sale, avec ses réfugiés, ses exilés qui sont regroupés autour de Leicester Square, qui débarquent là, qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas vraiment la possibilité de travailler parce qu'ils ne parlent pas la langue et puis qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Et c'est vrai que c'est une ambiance très particulière, en fait.
Oui, c'est une ambiance. Alors, d'abord, l'ambiance, juste deux mots sur l'effet sur l'ambiance physique, quoi. On a du mal à imaginer. Je dirais, en effet, c'est la plus grande ville du monde et c'est la capitale mondiale de l'industrie.
Et
l'industrie, à l'époque, c'est le charbon. Ouais. Charbon de terre, comme on disait à l'époque. Bon, tout marche au charbon. Et donc, tous les gens qui arrivent à Londres, et même les Anglais, il suffit de lire les romans de Dickens, la ville est noire, tous les bâtiments sont noirs, et le ciel, enfin, c'est un dôme. Dôme de suie, quoi. Et même quand il neige, la neige est noire. Bon. Enfin bref, donc ça c'est le cadre physique. Et puis j'ai oublié votre question, mais
on parlait des exilés.
Oui,
ils peuvent pas
faire grand chose. Ils sont en général dans la misère. Ils parlent anglais ou apprennent l'anglais, et donc ils vivent dans un état de misère terrible. Et dans un état aussi de
suspicion,
de paranoïa, enfin comme on dit, voilà, bon, ce respectant les uns les autres d'être des agents de Napoléon III, puisque c'est dans les années 50 et quelques. Et voilà. Alors il y a évidemment, en effet, des agents de la police de Napoléon III. Mais enfin, tout le monde suspecte tout le monde, quoi, grosso modo. Et ça, ce sont les exilés eux-mêmes, enfin, les plus mélancoliques, les plus lucides qui le disent. Bon, il y a des témoignages d'exilés qui sont absolument désespérés de voir qu'il n'y a même pas de fraternité entre eux, quoi. Et ça, c'est chez les Français, mais c'est pareil chez les Allemands, quand on s'intéresse un peu à la position de Marx. Marx est extrêmement minoritaire dans et qui est considéré aussi comme un traître par Willich, etc., enfin par d'autres exilés allemands. D'ailleurs, les haines sont pareilles, et vont aussi, d'ailleurs, dans le cas des Allemands, il y a aussi des duels, etc., enfin, entre exilés, quoi. Et tout ça dans l'indifférence complète des Anglais, quoi.
Alors, justement, il y aura cette scène de duel, et que j'ai trouvée passionnante, parce que là encore, c'est absolument improbable, ce pistolet qui ne fonctionne pas, cette manière de se rapprocher pour tirer. Enfin, on va pas dévoiler la scène, mais c'est absolument incroyable.
Oui, c'est un duel absolument plein de rebondissements. Enfin, je ne vais pas en effet le raconter, mais plein de rebondissements avec. Une arme qui semble, enfin, les journaux anglais disent qu'elle a été trafiquée, mais en y réfléchissant bien, on ne voit pas très bien quel sens ça aurait, enfin, à quoi ça aurait servi. Bon. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'est un duel qui dure très longtemps, parce que justement, plusieurs fois, le pistolet fait long feu, etc., et puis qui se termine quand même par l'un des deux qui est...
L'un des deux va mourir, l'autre va donc survivre, va être arrêté, va être condamné, va s'en tirer d'une certaine manière, mais il sera de nouveau impliqué.
Alors voilà, quelques années après, le survivant du duel est impliqué, enfin, il est plus qu'impliqué, il commet un double meurtre. Sans doute pas prémédité même. Bon, enfin bon, il tue un type, il se bagarre avec un type, il le tue, et avec un Anglais, bon, et puis ensuite il fuit, et il est attrapé dans la rue par différents personnages, et dans la bagarre aussi, qui tire, et il y a un deuxième qui est tué. Donc là, évidemment, son compte est bon, quoi. Il est arrêté. Il repasse, donc c'est la quatrième fois qu'il est passé deux fois devant des cours d'assises ou des conseils de guerre en France, et c'est la seconde fois également en Angleterre qu'il passe devant un jury, et évidemment là il est condamné à être pendu juste par le coup jusqu'à ce que mort s'en suive, ce qui justifie le titre.
Ça s'appelle...
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que son comportement sous la potence, dans la prison sous la potence, c'est absolument admirable, quoi. C'est un type d'un courage extraordinaire, un sang-froid extraordinaire.
Même par rapport à la religion, par rapport à beaucoup de choses. Mais c'est ça qui fait... inutile de dire que moi, c'est le personnage qui m'a le plus fasciné. Déjà, il disparaît assez vite quand même. Barthélemy, de par sa complexité, de par ses mouvements et tout, et en même temps par ce côté qui ne bouge pas, moi, je le trouvais absolument incroyable. Donc c'est un personnage qui va rester.
Il n'était pas resté pourtant.
Merci d'aller le rechercher.
Oui, en plus tout a disparu de lui, enfin à ma connaissance, puisque tout le monde a compris que celui qui est tué dans le duel, c'est celui qui normalement n'aurait pas dû l'être, puisque c'est lui qui a la plus grande expérience des armes, etc. Bon, enfin, c'est l'ex-officier de marine là, qui est tué dans le duel, et c'est donc Barthélemy qui va être pendu. Alors. Courneille reste sa tombe dans un cimetière près de Londres, dans un cimetière anglais, etc. Et c'est marqué, Courneille, à la République démocratique et sociale, etc. Enfin bon, voilà. Mais lui, il reste son souvenir quand même. Bon, voilà. Alors que l'autre, il a été enterré dans l'enceinte de la prison. La prison a été démolie à la fin du XIXe siècle. À sa place se dresse maintenant ce qu'on appelle Old Bailey, c'est-à-dire la cour centrale de justice, ce monument pharaonique, énorme, écrasant, etc., dans Londres. Bon, mais donc même ses restes ont disparu. Il ne reste rien de lui. Il paraît qu'il avait écrit des... Enfin, à ma connaissance, il reste rien de lui. Il avait écrit des feuillets, des lettres, etc., dans sa prison pendant les jours, les deux semaines qui précédaient l'exécution, qui ont disparu également, autant que je sache. Enfin, en tout cas, elles n'ont pas été retrouvées à l'époque. Et voilà, j'espérais voir son masque mortuaire, parce que on prend les Anglais prenaient des masques. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Enfin voilà, il ne restait apparemment rien de lui.
Oui, alors, ce qui m'a touchée aussi, c'est que dans la description de ses derniers moments, il demande à être, donc au moment de l'exécution, avoir une lettre dans les mains.
Oui, alors ça c'est très romantique.
Et ça c'est extrêmement romantique, ouais. Parce que c'est une lettre, probablement une lettre d'amour, ouais. D'une femme, parce qu'il y a la femme, un petit peu comme dans Sherlock Holmes, dans Sherlock Holmes avec Irène Adler, quoi. Ouais. Il y a la femme, et oui, ça rajoute une touche particulière.
Oui, c'est très émouvant, en effet. Ça, il résiste jusqu'au bout.
Inflexible.
Il résiste jusqu'au bout, mais très courtoisement aussi, aux tentatives de conversion que font les d'abord le chapelain anglican de la prison, et puis ensuite un prêtre catholique. Bon. Mais et assez drôlement, d'ailleurs, parce qu'il dit au prêtre, il aime bien le prêtre. Et apparemment, c'était un type bien, ce prêtre. Parce que le prêtre, après, dans une lettre, dit « Je dois dire que c'était devenu un ami et que j'ai pleuré quand il a été pendu. Bon. » Et donc, il dit au prêtre « Écoutez, j'aimerais bien, ça m'arrangerait, dans les circonstances où je suis, j'aimerais bien croire à la vie éternelle, etc. Mais non, je peux pas, j'y arrive pas. » Donc, il est très... Et comme ça, il reste inflexible. Et en même temps, il y a cette circonstance tout à fait mystérieuse, parce qu'on ne sait pas qui c'est, cette Sophie c'est de Poitiers. Bon, en tout cas, il a reçu une lettre, la prison l'a ouverte, bien sûr, et qui était envoyée par une certaine Sophie de Poitiers, et sa dernière volonté à Barthélemy, c'est d'être pendu avec, dans ses mains, lié derrière le dos, la lettre de cette Sophie de Poitiers. Voilà.
Et on va rester là-dessus, c'est trop beau.
C'est trop beau, oui.
Ça s'appelle « Jusqu'à ce que mort s'en suive », c'est d'Olivier Rollin, c'est paru chez Gallimard. Merci en tout cas pour ce livre, et il y a déjà des projets en cours.
Oh, ils sont tellement vagues que je ne peux pas, je peux pas entreprendre d'en parler, parce que c'est quelque chose, c'est des espèces de nuées, de thèmes, de enfin, c'est pour l'instant, c'est à l'état absolument nébuleux, quoi.
Merci en tout cas pour celui-là.
J'aimerais bien non pas croire à la vie éternelle, mais j'aimerais bien avoir déjà un projet dont je puisse vous faire part, mais ça n'est pas encore le cas.
À une prochaine fois, j'espère. Quand même.
J'espère aussi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est toujours Radio Libertaire, et c'était donc Olivier Rollin qui nous parlait de « Jusqu'à ce que mort s'en suive » paru aux éditions Gallimard. Et dans quelques instants, on va retrouver Erwan Desplanques pour son recueil de nouvelles qui est paru aux éditions de l'Olivier. Très très beau recueil de nouvelles qui s'intitule « La part sauvage ». Voilà, on retrouve tout de suite Erwan Desplanques. Pour Radio Liberté 89.1, on est ravis de retrouver Erwan Desplanques pour parler d'un recueil de nouvelles qui est paru aux éditions de l'Olivier. Un recueil de nouvelles qui s'appelle La part sauvage. Et on discutait un petit peu avant de commencer cet entretien à propos justement.
Welcome, my son. Welcome to reçu. Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 189.4, la célèbre radio de la Fédération anarchiste, sans publicité. Et vous êtes à l'écoute de Sévices Public, l'émission de la CNT Énergie. Donc ce soir, nous avons avec nous l'éminent journaliste.
Un nouvel invité.
Un nouvel invité.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça.
Thierry Gadeau, du journal Blast, notamment.
Tout à fait.
Voilà.
De Blast, il faut en parler un peu.
Blast, oui.
Oui, donc le site d'information Blast.
Voilà.
B-L-A-S-T. tradeunioninfo.fr.
Voilà, et allez dessus, vous allez voir, c'est très très intéressant. Il y a des petites vidéos, des vidéos aussi qui sont pas mal du tout. Ce soir on va traiter de divers sujets. On va commencer avec faire une continuité de l'émission qu'on a eue il y a un mois avec des gens du lycée autogéré de Paris. Samedi, il y a ça, une semaine, j'ai assisté à une réunion du lycée autogéré qui se déroulait dans des locaux de la ville de Paris, puisque le nouveau proviseur, chose qu'il n'y avait pas, j'ai dit nouveau, c'est très nouveau, puisqu'il n'y avait pas de proviseur au lycée autogéré. Et comme maintenant, on les a... mis sous tutelle du lycée Lursa, Jean Lursa. Donc il y a un proviseur. Et ce proviseur a bien sûr interdit toute réunion dans le lycée. Dès ma